Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Je tiens à excuser tous nos auditeurs. C'est une peine d'amour de Gabouchard a été coupée directement au milieu. On sait pas trop pourquoi. Mais bon, ça donne bien. Il est 10h, donc on... en fait, avant qu'on parte pour la chronique à Marc-Antoine, on a en fait un petit un résumé en fait de la présentation de Pierre... Paul Saint-Pierre Plamondon, mon Dieu. De PSPP, notre cher PSPP, chef du Parti québécois, qui était là hier, justement, en conférence. Donc, on a un résumé, justement, de cette conférence-là. Ça dure un petit 3 minutes. Donc, on vous lance ça directement. Puis ensuite de ça, c'est la petite chronique à Marc-Antoine.
Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, était de passage lundi midi à l'Université de Sherbrooke où, à la Faculté d'éducation, il est venu prononcer sa conférence « Le Québec, un pays » devant une salle bondée d'étudiants et de militants de longue date. Signe de l'engouement incroyable pour l'événement, eh bien, la conférence devait avoir lieu dans un local pouvant accueillir environ 75 personnes, mais finalement, la conférence a eu lieu dans un auditorium de la Faculté d'éducation où on pouvait facilement compter plus de 200 têtes. Sur place, le député de Camille Lorrain a tenu à rappeler l'importance pour le Parti québécois de tenir un référendum dans l'éventualité où sa formation était élue lors des prochaines élections, élue bien sûr au gouvernement, et qu'il était satisfait devant l'engouement des adhésions, voire les cartes de membres, donc... explosé au Parti québécois, notamment chez les jeunes. Je suis avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Monsieur Plamondon, on l'a vu aujourd'hui, l'engouement était réel. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes étaient présents à la conférence. Comment ça se passe sur le terrain avec les militants, l'adhésion aux cartes de membres?
Bon, aujourd'hui, on attendait 100 personnes. On en a eu plus que 200, donc on a dû déménager de salle. Et c'est le reflet des cartes de membres. En date d'aujourd'hui, depuis janvier, on a 5400 cartes de membres vendues. Ce qui est... presque 10 fois plus qu'il y a 2 ans. C'est beaucoup plus qu'à pareille date l'an dernier, alors qu'on finissait la séquence du serment au roi, qui avait quand même généré beaucoup d'intérêt. Donc, on sent une adhésion, de nouvelles adhésions. Donc, ce ne sont pas des gens qui étaient membres auparavant. Et ça nous permet d'espérer d'aller chercher non seulement de la mobilisation en termes de personnes, mais d'avoir des leviers financiers pour faire davantage la promotion du Québec comme pays.
On va amener justement vers la prochaine question. On parle de levier financier dans un référendum. Il y a évidemment un camp du oui, un camp du non. On l'a vu avec le rapport Grenier, de toute façon, qui a viré en 95, de Lovin, le scandale des commandites par la suite. Dans le camp du oui, comment on va se préparer pour ça? Comment on va aller chercher le financement, l'appui d'un Québécois, des entreprises? Comment on va faire de ce côté-là?
Bien, c'est l'encadrement en termes de règles. On a sous-estimé en 95 notamment le rôle que des gens qui n'auraient pas le droit de vote ont pu jouer. On va avoir un cadre un encadrement législatif beaucoup plus serré. Et je pense aussi qu'on s'attend à ce que le camp du non triche. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé en Écosse. On a 2 expériences. Donc, la population sera sensibilisée à l'avance des campagnes de peur et des manœuvres qui pourront avoir lieu. Et ça aura donc pas mal moins d'influence, peut-être, qu'en 1995. Il faut voir l'histoire du Québec comme quelque chose de cumulatif. Et on apprend à travers les décennies et on chemine lentement vers ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire être un pays qui décide par lui-même.
Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de session parlementaire.
À la prochaine.
Donc, petite entrevue terminée. Ben oui, c'est ça. Donc, résumé, petite entrevue justement de PSPP qui finit. On l'a écouté avec vous pour la première fois. Donc, effectivement, grand engouement de la part de l'Université de Sherbrooke pour aller voir la conférence de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais on a aussi un, on pourrait dire, je ne veux pas dire cohorte, en fait, c'est un programme très engagé aussi de la part de nos collègues. Là. En tout cas, je regarde mes collègues Enzo et Enzo notamment, qui est très, 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 très engagé, peut-être moins auprès de PSPP, mais c'est une. Ouais. Les gens de notre programme sont excessivement engagés, je trouve, et ils ont. Toujours, on les voit toujours dans tous les événements, peu importe s'ils sont de politique ou simplement de l'Université de Sherbrooke. Donc,
Ah, il faut, surtout quand on a c'est pas forcément par rapport au PQ, moi j'ai rien à voir avec le avec ça, mais il faut s'engager, il faut militer, surtout en tant qu'étudiant, surtout pour nous en tant qu'étudiant en politique, quand on a ces connaissances là autant les mettre en œuvre dans des luttes qui nous touchent, effectivement.
Exact. Fait que sur ce, je passe la parole à Marc-Antoine qui va nous faire sa chronique.
Ouais, merci Jérémy. Donc moi je vais parler aujourd'hui de est-il temps que le Québec ait un directeur parlementaire du budget? Parce qu'actuellement, il n'y en a pas. Mais avec l'actualité récente, comme on a pu le constater, notamment on a parlé du projet Nordvolt hors onde.
Oui, effectivement, parce que, mon Dieu, Benoît Charrette.
Oui, ben c'est ça. C'est que Benoît Charrette, mercredi dernier, a admis qu'une intervention du gouvernement avait été nécessaire pour contourner le BAP, qui est le Bureau d'audience publique sur l'environnement, parce que le processus pour l'étude d'un projet au BAP est quand même sur une longue période de 12 à 18 mois, selon ce que j'ai vu, sur plusieurs sources, par crainte de perdre le budget alors que le gouvernement avait toujours nié son implication.
Par contre, je tiens quand même à préciser, là, ce matin, il y a quand même un article où Fitzgibbon, justement, là, il dit que la méga-usine de Nordvolt n'a pas eu droit à un traitement de faveur pour éviter un examen du BAP. Bon.
J'imagine que c'est l'article de la presse.
Oui, exact, c'est ça. Mais en tout cas, moi, de la façon que je l'ai vu, Fitzgibbon a clairement contredit Benoît Charrette. Moi, je pense qu'en arrière des rideaux, Benoît Charrette s'est quand même fait taper ses doigts de dire que, voyons, ils ont déjà de la misère avec, comment on dit ça, l'image publique de Nordvolt. Il fallait que Benoît Charrette dise ça, en tout cas.
Puis c'est ça, puis on approche également des budgets. Il y a celui du gouvernement provincial qui sort aujourd'hui. Vers 16h, on devrait savoir c'est quoi le contenu. Il y a celui également du gouvernement fédéral qui va être le 16 avril. Comme on parlait, moi puis Jérémy, il y a aussi il y a le questionnement sur Nordvolt et le BAP, mais il y a aussi l'annonce de la toiture du stade olympique, le contrat évalué à autour de 870 millions de dollars, qui a remis l'enjeu à l'ordre du jour. Bien que l'enjeu peut paraître récent, l'enjeu en soi n'est pas nouveau, parce que durant la pandémie, plusieurs personnes et experts économistes avaient souligné la pertinence de la création d'un DPB, directeur parlementaire du budget. Ailleurs au Canada, le gouvernement fédéral en a un depuis 2006. L'Ontario, auquel le PM, c'est notamment M. Legault, le premier ministre, s'est beaucoup comparé en termes de richesse, en a un depuis 2013. En 2006, à l'époque, le gouvernement de Stephen Harper a pris cette décision très rapidement durant son premier mandat, ce qui va avoir des effets à long terme assez positifs, même si c'était pas parti pour ça au départ, parce qu'il y avait beaucoup de tensions entre le gouvernement et Kevin Page, M. Page, qui était le premier directeur parlementaire du budget. La position du gouvernement québécois là-dessus sont clairement pas favorables à une telle mesure, parce que pour eux, la vérificatrice générale du Québec joue un rôle similaire, bien que son rôle, selon Gérald Filion, est plutôt vague, car il veille à la saine gestion des ressources et le contrôle parlementaire dans l'intérêt de la population québécoise. Dans ce contexte, le directeur parlementaire du budget serait vu comme un complément à la vérificatrice générale. Il y a d'ailleurs une motion qui a été adoptée unanimement par tous les partis de l'Assemblée nationale le 13 novembre 2019. D'ailleurs, le Parti libéral du Québec se montre très actif sur ce dossier. Il réclame sa création et dénonce le manque d'action du gouvernement dans ce dossier. Un directeur parlementaire du budget serait très utile parce qu'il met en place beaucoup de documents accessibles pour les partis politiques. Il y a des études sur la hausse de la taille de l'État dans le sens au niveau... l'aspect administratif, beaucoup les fonctionnaires. Il y a au niveau de la hausse des dépenses en défense, la situation économique du Canada, il y a beaucoup de documents aussi sur les prévisions budgétaires. Il y a aussi... il peut servir à analyser les coûts des promesses électorales, évaluer les coûts des investissements, exemple, le panier bleu qui vient de fermer, les espaces bleus qui viennent aussi de fermer. Il peut également faire une évaluation des dépenses des grands projets. On parle beaucoup de Northvolt, il y a aussi le REM, il y a aussi le troisième lien, il y a le tramway.
Et même toutes les villes et municipalités qui demandent un réinvestissement dans le transport en commun. Là,
Effectivement, c'est revenu aussi beaucoup dans l'actualité dernièrement, parce qu'il y a beaucoup de villes qui font front commun et pression envers le gouvernement pour qu'il y ait plus d'investissement dans le transport collectif.
Ben oui, puis on voit que la STM est en train de s'écrouler sur elle-même. Ils font des... En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, là, cher auditeur, toutes les coupures au sein de la STM, des employés, de la baisse de la quantité d'autobus qui se promènent. Bref.
Oui, il y a des autobus, je pense, qui faisaient les trajets fréquents à toutes les 10 minutes et la STM ont d'ailleurs coupé certains de ces autobus faisaient ce genre de trajet. Puis, à l'origine, c'est M. Carlos Letao, ancien ministre des Finances du Québec, qui avait milité pour la création du DPB parce que il n'y a pas de ressources adéquates pour faire un suivi des dépenses publiques et des revenus dans les partis politiques et de la société civile. Jean-Denis Fréchette voit également l'arrivée d'un directeur parlementaire du budget de bon œil, notamment pour les évaluations financières et économiques sur les changements climatiques. On sait que c'est un enjeu qui occupe beaucoup de place dans l'espace médiatique. Il y a aussi tout ce qui est développement durable. On va avoir une entrevue après avec Jean-François Comeau sur les objectifs de développement durable.
Mm-hmm, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est en 2023, dans le classement international STARS, qui est un classement en fait, du développement durable des universités dans le monde, l'UDS a gagné la première place. Mon Dieu, c'était difficile à dire cette phrase-là. On va répéter. L'UDS a gagné, L'UDS a eu une première position mondiale dans le développement durable au classement international STARS l'année passée. Et justement, cette année, ils remettent la semaine une semaine de genre de festival avec plein d'activités virtuelles ou en présentiel, justement, là, en lien avec le développement durable et les 17 objectifs des ODD, justement.
Qui va avoir lieu la semaine prochaine, d'ailleurs.
Oui, exact, c'est ça. Donc, c'est l'entrevue, justement, avec Jean-François Comeau. Et je crois que c'est justement, là, on partait justement une petite pause musicale et publicitaire, là, avant de justement parler à Jean-François Comeau, qui est directeur en charge du projet d'intégration du développement durable dans la formation au vice-rectorat aux études. Donc, on se retrouve directement après la pause.